La grande édition avec Clémence Gourdon-Légrini. Bonjour Clémence.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous.
Et nous prendrons la direction de Calvi.
Grand angle sur la commune, véritable moteur de la Balagne. Nous y étions ce matin dans Géomère et en direct avec Ange Sontigny. Le maire a évoqué les défis de la commune, notamment ceux posés par une population qui quintuple chaque été, mais aussi les mesures prises pour protéger la ville face à la pression immobilière, avec 53% de résidences secondaires actuellement. Ça y est, la saison touristique démarre et chaque année, la même problématique pour les gérants d'hôtels ou les restaurateurs, trouver du personnel. Depuis quelques années, les candidats ne manquent plus, mais ils ne viennent qu'à condition d'être logés. Reportage dans ce journal. Dans l'actualité également de ce midi, le contrôle technique obligatoire pour les deux roues. La mesure est entrée en vigueur ce matin au grand dam des motards qui protestent toujours contre cette obligation et appellent au boycott des centres de contrôle technique. Mais d'abord, nous revenons sur cette polémique à Coisquoir. Une centaine de personnes étaient réunies hier contre le recours déposé devant le tribunal administratif par une habitante du village et adversaire politique de l'actuel maire. Au cœur de la querelle, une croix érigée par la mairie en 2022 sur un terrain communal. L'habitante réclame qu'elle soit déplacée, installée sur un terrain privé ou religieux au nom du principe de laïcité. Une querelle villageoise qui dépasse désormais les frontières de la commune. Léria Maria Mousse.
Culture, histoire, identité, tradition, ce sont les mots qui reviennent le plus ce dimanche au pied du calvaire de Coisquoir. Jean-Marc Orsigne est venu de Porto Vecchio avec d'autres amis bikers du Fiumorbo, du Niol et de Bastia.
C'est plus cette tradition qui est rien qui change dans notre pays parce qu'on a un pays magnifique, on a des traditions et des valeurs depuis toujours qui sont quand même des valeurs fortes et c'est ça qu'on veut soutenir.
Soutenir le maire de Coisquoir, Paul-Antoine Bertolotti, qui affirme:
ça fait partie de notre patrimoine. Le patrimoine, c'est quelque chose de culturel. Dans le droit aussi, la tradition est un bien fondé.
Sur fond de conflits de village, cette affaire a été érigée en symbole par plusieurs partis politiques, signe de l'instrumentalisation de plus en plus fréquente du fait religieux, et a pris une tournure inattendue, mais positive selon l'élu.
C'est pas trop d'ampleur, c'est un élan de démocratie, c'est un élan de solidarité. C'est aujourd'hui toute une région qui est regroupée derrière un symbole. Alors je ne dirais pas qu'il n'y en a pas assez ou trop, mais il y a exactement tout ce qu'il fallait avec tout ce qui va continuer à arriver.
De son côté, l'habitante qui a déposé ce recours ne souhaite plus s'exprimer dans la presse. Elle indique simplement regretter l'ampleur que prend désormais cette affaire.
Pour le moment, aucune date n'a été fixée pour l'audience devant le tribunal administratif. Dans Géomère et ce matin, grand angle sur Calvi, nous recevions le maire de la ville, Ange Sontigny, qui a aussi répondu à vos questions ensuite au forum. Présentation Jean-Philippe Thibaudeau de la commune de Calvi, véritable moteur de la Balagne.
La cité Saint-Père Fidélis, surnommée ainsi depuis l'époque de la République de Gênes, est l'une des communes les plus dynamiques de l'île, notamment sur le plan démographique, avec une population qui flirte avec les 6000 habitants et qui a doublé en un peu moins de 50 ans. Mais Calvi, c'est avant tout l'un des fleurons du tourisme en Corse, avec un aéroport international qui a vu transiter près de 365 000 passagers l'an passé. Boosté par de nombreux événements, la cité balagnine est devenue un lieu incontournable des grands rendez-vous sportifs et culturels. Pour preuve, Calvi s'apprête à accueillir près de 10 000 personnes entre le mois d'avril et le mois de mai. Pour gérer ces flux et notamment faire face à une pression foncière de plus en plus forte, la municipalité a mis en place depuis l'an passé un programme immobilier en faveur des primo-accédants, mais également une majoration de 30% des taxes foncières pour les résidences secondaires. Signataire de l'opération Petite Ville de Demain, Calvi a lancé depuis plusieurs mois une trentaine de projets visant à redynamiser son territoire et le centre-ville.
Gestion de la période touristique, mesure face à cette pression immobilière, mais aussi Ladies Open de Calvi qui bat son plein en ce moment. Autant de sujets abordés avec le maire de Calvi qui répond aux questions de Jean-Philippe Thibaudeau.
Enchantigny, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui comme invité de la rédaction dans ce décor un petit peu particulier. Nous sommes ici sur la plage de la Pinède de Calvi. Un choix assumé de votre part parce que se déroule actuellement le Ladies Open de Calvi au Dedigne, un tournoi international de tennis. On a envie de dire un événement parmi tant d'autres aujourd'hui à Calvi. Tant aujourd'hui vous êtes présent sur l'événementiel, sur le culturel, sur le sportif. Est-ce que c'est une vraie stratégie de votre commune aujourd'hui que de développer ces secteurs-là?
Oui, d'abord bonjour. Effectivement, c'est une vraie stratégie de la commune, mais pas seule. Parce qu'une commune seule, si elle n'a pas d'association qui porte les événements, elle ne peut rien faire. Notre mérite Bien sûr, nous avons un, c'est de soutenir à la fois financièrement et techniquement toutes ces belles manifestations, vous l'avez dit, sportives et culturelles. Et pour ce qui concerne celles que nous vivons depuis hier, c'est l'Open féminin Ladies Calvi aux Deux Îles, qui est un événement international, puisqu'il y a une cinquantaine de joueuses, dont 24 nationalités, qui vont se disputer les courtes tout au long de la semaine. Et on voit qu'ensuite, c'est une belle notoriété pour la ville de Calvi, puisque c'est autant d'ambassadrices de notre ville et de notre île, hein, qui vont ensuite se dispatcher dans tout le monde.
Alors c'est un événement et des événements qui drainent énormément de monde. Rien que sur le mois d'avril ou le mois de mai, il y a près de 10 000 personnes qui vont venir sur Calvi pour les différents événements. On le disait dans notre journal de 7 heures, votre commune est l'un des fleurons du tourisme en Corse. Population multipliée par 4, voire 5 durant la saison estivale. Ça pose forcément des problèmes parce que vous êtes une commune dynamique dont la population augmente chaque année. Comment justement vous arrivez à faire cohabiter cet afflux de population durant l'été et votre population à l'année?
Alors, la population est pratiquement multipliée par 6, puisqu'une sorte surclassée 20 à 40 000 habitants et un peu plus de 35 000. C'est ce qui fait la difficulté de la tâche, mais aussi la beauté de la tâche, puisqu'on ne gère pas une commune avec une population identique à longueur d'année comme une ville comme Calvi. Ça veut dire qu'il faut s'y préparer à l'avance. Il y a des investissements qui se font bien sûr pour la population hivernale, mais aussi pour la population touristique, et avec en face, pas forcément les recettes qui vont avec, puisque je dis souvent que le tourisme directement dans les caisses de la commune, il laisse la taxe de séjour qui va à l'office de tourisme intercommunal et il laisse les parkings, heureusement, ce qui nous permet d'avancer un petit peu dans les travaux que nous avons à réaliser.
Alors oui, mais c'est difficile de cohabiter justement. Votre commune est passée en zone A au niveau de la pression foncière. Ça veut dire que vous faites partie des 4 communes de Corse et certaines au niveau national qui ont de plus en plus de pression immobilière. Comment vous faites justement pour permettre aujourd'hui au Calvet de se loger dans cette situation-là?
Alors, d'abord, je dirais que c'est un peu la rançon de la gloire. Hein. Il faut en avoir conscience. Nous avons un taux de résidence secondaire qui avoisine les 53-54%. Donc, à l'inverse, ce sont les résidences principales, autour de 46-47%. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Alors, le fait d'être classé en zone A, tant qu'à faire, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Au moins, nous avons les inconvénients, mais les avantages liés à ce classement. Qu'est-ce que nous faisons? D'abord, nous cherchons à réguler le marché des locations des résidences secondaires, puisque à l'occasion d'un conseil municipal de mars dernier, il n'y a pas très longtemps, nous avons voté l'obligation de déclaration d'enregistrement des meublés dits de tourisme, parce qu'il faut faire toujours très attention à ce que l'on fait en la matière, parce que lorsque l'on parle des résidences secondaires, on a tendance à parler spéculation, et on a tendance à penser aux propriétaires qui ne viennent pratiquement jamais ou qui occupent le logement 15 jours par an, mais il y a aussi la population calvaise qui a un complément de revenus et qui souvent préfère louer à la saison parce que l'hiver, on le garde pour la famille par exemple, et il ne faut pas non plus les pénaliser. Donc après le recensement, ça nous permettra de mettre en place une politique. Et à titre municipal, ce que nous faisons, alors là on va plus parler d'accession à la propriété, puisque depuis de longues années, nous avons mis en place un dispositif à travers une société publique locale d'aménagement, qui est l'SPLM, et nous en sommes aujourd'hui, entre ce qui a été réalisé et ce qui est en passe de l'être, les dossiers sont lancés, quelques 200 logements qui permettent quand même de loger entre 600 et 700 personnes qui n'auraient jamais eu accès à la propriété, primo-accédant, si nous n'avons pas fait. Et dans le cadre du PLU que nous avons voté en mars 2021, il y a une obligation pour tout promoteur de réserver 10% des logements collectifs naturellement. Pareil, dans les mêmes conditions pour l'accession à la propriété.
Alors, on le disait, c'est une commune dynamique. Vous avez signé il y a quelque temps la convention pour redynamiser votre territoire dans le cadre des programmes Petite Ville de Demain. Il y a une trentaine de projets qui sont en cours. C'est quoi l'objectif?
Alors, il y a un peu plus que ça, parce qu'il y a des projets qui dépendent bien sûr du programme Petite Ville de Demain. Il y en a d'autres qui sont financés. Gérald Darmanin, d'ailleurs, est venu en février de l'année dernière signer la convention programme de transformation et d'investissement pour la Corse. Alors, en fait, c'est toujours cette dualité. Il faut investir à la fois pour celles et ceux qui vivent à longueur d'année, comme par exemple une maison de la jeunesse qui va démarrer dans quelques mois, mais aussi, bien entendu, pour l'attractivité et l'attraction touristique de la ville. Un exemple phare, c'est deux même, hein, c'est la place dite du monument qui est en train d'être réhabilité complètement, et c'est le programme Petite Ville de demain, et puis c'est le théâtre de Verdure, qui n'a de verdure que de nom, qui est derrière la jetée, dans un site magnifique, qui va faire l'objet très rapidement de lancement de travaux. Nous sommes à l'appel d'offres, nous attendons les résultats, pour environ 3,5 millions à 4 millions d'euros. Ça sera un théâtre de 1800 places assises, 3000 debout, justement pour redynamiser la saison, en complément du centre culturel, de la salle de spectacle, qui va être sans doute portée sur les fonts baptismaux en septembre prochain.
Pour conclure très rapidement, Ange Santini, le 10 janvier dernier, vous aviez lancé une enquête publique pour récupérer la concession de la plage ici de la Pinède de Calvi. Où en est-on de ce projet et pourquoi justement ce projet?
Alors déjà, votre question est tout à fait d'actualité, puisque cet après-midi, je réunis le conseil municipal de Calvi à 17h, et entre autres, à l'heure du jour, il y a l'autorisation qui doit m'être donnée pour signer la concession de plage avec monsieur le préfet de la Haute-Corse, que je remercie avec ses services, et monsieur le préfet de Calvi pour avoir fait diligence dans ce cadre-là. Ça va nous permettre de mieux maîtriser tout simplement l'ouverture des établissements. Ça sera porté à 8 mois, l'entretien de la plage, le balisage, et puis aujourd'hui, il faut dire les choses, l'État récupère les recettes liées à la concession qu'il a, et c'est la commune qui en a les dépenses, donc ça nous permettra d'avoir un peu plus de financement pour mieux investir au service de la plage, tout simplement, et de Calvi.
Ange Santini, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et un autre sujet abordé ce matin avec Ange Santini, cette fois à travers vos questions dans le forum, celle des travaux, notamment pour le théâtre de Verdure.
Antoine, bonjour.
Bonjour à tous. Bonjour monsieur le maire. Voilà, vous avez initié plusieurs travaux en ville. Et apparemment, ça pose. Enfin, il y a eu quelques gênes pour les habitants, mais apparemment, l'opposition aussi prône que il n'y a pas de concertation avec la majorité. Qu'avez-vous à répondre à ceci? Et une deuxième question, si je peux me permettre, il y avait un projet sur le théâtre de Verdure, et qu'en est-il exactement de ces travaux? Merci.
Merci à vous, Antoine.
Bien. Merci Antoine. Alors, un certain nombre de précisions. Bon, d'abord, les travaux, qu'ils soient portés par le public ou par le privé, sont autorisés à Calvi pendant 10 mois. Les travaux qui peuvent apporter quelques nuisances, hein, c'est-à-dire que sont interdits, notamment en ville, les travaux qui apportent des ondes sonores juillet-août. Donc nous sommes très loin de cette période-là. Il y a eu encore quelques travaux, et il y en a encore en ville. Pour ce qui concerne le théâtre de Verdure, qui est une réalisation emblématique de la ville de Calvi, elle est inscrite dans le cadre du programme de transformation et d'investissement pour la Corse, qu'a signé Gérald Darmanin le 18 février 2023. À l'occasion de sa venue à Calvi. C'est un théâtre qui va fonctionner pendant 6 mois. L'appel d'offres est en cours. Nous aurons le résultat à la fin du mois d'avril. Ce sont des travaux très importants, de l'ordre de 3,5 millions à 4 millions d'euros, qui verront la construction en dur de ce théâtre de Verdure, qui va épouser derrière la jetée la forme de la topologie des lieux. Et 1800 personnes pourront être accueillies assises, près de 3000 debout. On voit que ça va vraiment dynamiser la ville et la saison touristique. Et ça viendra, je le dis, même si la question n'a pas été posée, en complément de la salle de spectacle qui est édifiée à l'entrée de la ville, qui est portée par la communauté de communes Calvi-Balagne, que naturellement nous soutenons dans la majorité, et qui devrait ouvrir ses portes en octobre prochain. Les travaux sont en train de s'achever.
À l'international, Israël déterminé à poursuivre son offensive dans la bande de Gaza. L'armée israélienne affirme que l'attaque iranienne de ce week-end ne la fera pas dévier de ses objectifs face au Hamas. De son côté, la France assure avoir fait des interceptions de missiles et de drones iraniens visant Israël dans la nuit de samedi à dimanche à la demande de la Jordanie. À 100 jours des Jeux Olympiques, Emmanuel Macron tente de rassurer face à la menace terroriste. Il évoque la possibilité de plan B et C pour la cérémonie d'ouverture à Paris sur la scène. Elle pourrait finalement se limiter au Trocadéro ou être rapatriée au Stade de France. Ça y est. La saison estivale démarre de plus en plus tôt et avec elle son lot de casse-tête pour les entreprises hôtelières et certains restaurants, notamment celui du personnel saisonnier. Plusieurs milliers d'emplois sont nécessaires pour faire fonctionner les établissements en saison. Et si à une époque il était difficile de trouver des candidats, aujourd'hui il ne manque pas, mais la plupart d'entre eux n'acceptent que des postes avec logement, ce qui rend les choses forcément compliquées et coûteuses pour les entreprises, Marion Galland.
Si vous ne les logez pas, ils ne viennent pas. Les professionnels font tous le même constat et sont donc de plus en plus obligés de s'organiser pour accueillir leurs saisonniers. Karina Goffi, présidente de l'UMI de Corse.
Il faut savoir qu'on loge, on nourrit, on blanchit nos collaborateurs. Moi, je vais prendre une structure comme chez moi où je peux atteindre 48 collaborateurs. Sur les 48, il y en a quasiment 32 qui sont logés. C'est un coût pour un chef d'entreprise.
Un coût important car les solutions ne sont pas nombreuses. Soit les hôteliers logent leur personnel dans leurs établissements et perdent ainsi en chiffre d'affaires, soit ils louent des appartements, soit, troisième solution de plus en plus prisée, ils investissent dans des mobil-homes. C'est le choix fait par César Philippe, mais l'hôtelier rappelle qu'il n'y a pas que le logement à prendre en charge.
Quand on parle d'achat, après il y a le fonctionnement, parce qu'ils ne paient absolument rien. Hein. C'est-à-dire que l'électricité, l'eau, le gaz, on leur installe une laverie, on est obligé de mettre un vigile. En tenant compte de l'ensemble de ces prestations, eh bien, je vous dis, ça vous coûte 2 000 à 1 500 euros. Par mois et par salarié.
César Philippe, qui a alerté les autorités jusqu'au ministre afin d'envisager des solutions, comme la mise en place de maisons des saisonniers dans les stations balnéaires. Mais ces courriers n'ont à ce jour pas reçu de réponse.
Dans l'actualité également, le contrôle technique des deux roues qui est entré en vigueur aujourd'hui. Il est désormais obligatoire pour tous les véhicules immatriculés avant 2017. Résultat, les centres de contrôle technique, une vingtaine en Corse, sont sur le pont. Car même si cette mise aux normes européennes est dans les tuyaux depuis de nombreuses années, la grande majorité des centres n'est pas prêt. Roland Frias, ils doivent très rapidement s'adapter. C'est ce que vous avez constaté auprès d'Ange Pastinet, le contrôleur technique à Bigouille.
Dans ces centres, sur 7 contrôleurs techniques, 3 ont désormais la double casquette, 4 roues, 2 roues. Parmi eux, Ange Pastinelli qui nous décrit le matériel obligatoire dont la livraison se fait attendre face à l'explosion du carnet de commandes des fournisseurs.
C'est-à-dire des béquilles, des systèmes particuliers pour les motos, qu'on puisse les lever pour contrôler les jeux à l'avant, à l'arrière, il faut lever, qu'on fasse tourner les roues, contrôler tout ce qui est freinage, les chaînes, transmission et tout ça. Il nous faut un minimum de matériel comme ça. Et ça va évoluer avec des ponts et ce qui va évoluer surtout l'année prochaine, c'est-à-dire le sonomètre et le banc pour mesurer la vitesse des petits scooters.
Des investissements importants à opérer, selon Ange Pastinet, liés ceux sans réelle visibilité et état des lieux du parc de roues.
Avec le système d'immatriculation, ça devrait être facile. On n'a pas réussi, c'est pas comme la voiture, on sait que cette année, il y a tant de voitures plus ou moins qui vont passer au contrôle technique. Alors, on a un pourcentage par rapport au parc, la Corse, mais la moto, pour l'instant, on n'a rien.
Des motos qui, contrairement aux voitures, pourront être contrôlées en présence de leur conducteur.
Si c'est une moto, il ne veut pas qu'on la touche trop, qu'on la manipule trop, il sera là avec nous, c'est lui qui la déplacera et qui fera certaines manœuvres, mais il pourra nous assister pour faire le contrôle.
Le prix du contrôle technique de roue devrait se situer entre 50 et 100 euros selon le type de véhicule.
La durée de validité de ce contrôle technique est de 3 ans. La gendarmerie de Corse précise qu'elle laissera un temps d'adaptation avant de commencer à verbaliser à partir de mi-août. L'amende est de 135 euros, minorée à 90 avec immobilisation du véhicule. Insultes sur les réseaux sociaux, propagation de rumeurs, harcèlement en groupe, moquerie. Le cyberharcèlement est un véritable fléau et pour le combattre, il faut sensibiliser dès le plus jeune âge. C'est l'objectif de l'éditeur Bayard Jeunesse qui sort un livret destiné aux 7-12 ans. Il est téléchargeable gratuitement et sera aussi distribué avec des magazines pour les plus petits. Car Victor Vasseur, le cyberharcèlement commence dès le plus jeune âge.
Ce livret illustré de 16 pages présente plusieurs cas de cyberharcèlement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans un jeu en ligne. Des mises en situation qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours. Un enfant sur 5 est victime de cyberharcèlement, rappelle Delphine Solière. Elle dirige les rédactions de Bayard Jeunesse.
Même si les enfants n'ont pas l'autorisation d'avoir un compte de réseaux sociaux, en fait, ils sont sur les réseaux sociaux de leurs parents. On sait qu'on a 30% des enfants de moins de 7 ans qui ont un compte Instagram, par exemple, leur nom, parce que les parents utilisent. En fait, ils ont accès à plein de réseaux sociaux sans y être effectivement.
Au fil des pages, des conseils sont distillés. Parler à un adulte ou appeler le numéro anti-harcèlement, le 3018. Ce livret est destiné aux enfants, mais aussi aux parents, explique Delphine Solière.
Pour des parents d'enfants de 8-9 ans, ils n'ont pas forcément conscience des risques que prennent leurs enfants. Les parents sont tout à fait d'accord pour apprendre à traverser la rue à leurs enfants et leur apprendre à aller chercher le pain tout seul à 4 ans en disant oui, effectivement, c'est une preuve d'autonomie. Mais on ne leur apprend absolument pas Internet. On ne leur apprend absolument pas que c'est une zone de danger.
Ce livret donne aussi la parole à la jeune chanteuse Zoé Closure, gagnante de l'Eurovision Junior. Victime de harcèlement, elle témoigne et raconte comment elle a été aidée pour s'en sortir.
Vous pouvez d'ores et déjà télécharger ce livret sur le site internet bayard-jeunesse. À Ajaccio, un dispositif pour aider les personnes atteintes d'autisme. Un fauteuil a été installé à la maison d'accueil spécialisée Les Magnoles. Il s'appelle Otto. Il a été créé par une ébéniste et designer pour permettre de donner plus de sérénité aux personnes autistes. La RS Corse a fait le choix de financer à hauteur de 5000 euros ce fauteuil et de le confier à l'association Espoir Autisme Corse. Une première dans l'île dont les effets sont déjà mesurés par les équipes Paul Ortoli.
Apaiser les troubles autistiques en procurant du bien-être, c'est le sens du fauteuil Otto, conçu comme une bergère, enveloppant la tête et bordée de coussins compresseurs. Un prototype donne déjà des résultats encourageants à la maison Les Magnolia. Yona Wolf, éducatrice spécialisée, installe pour sa séance l'un des résidents, Xavier, 37 ans.
Séance en fait sensorielle, de fauteuil à étreindre, fauteuil Otto. Xavier, il adore ça. Ça lui permet de s'apaiser dans des moments où il peut être un petit peu très sollicité sensoriellement. En fait, on a fait une phase d'évaluation pour être sûr de la pression. On est en cours d'évaluation du temps.
Temps maximal 20 minutes avec un relâchement des muscles qui permet de réduire l'angoisse. C'est ce qu'affirme le docteur Inès Boulgalec.
Ils se sentent détendus après plusieurs minutes, comme si il y avait un effet maternel qui revenait à leur esprit, comme s'ils étaient dans le ventre peut-être enveloppés. Ils sont vraiment en sécurité en fait, comme dans un cocon.
Un cocon qui protège du monde, mais dans la salle multisensorielle attenante, on éveille aussi les sens pour les adultes qui, au contraire, ont besoin d'être stimulés. Explication avec Julie Lebert, neuropsychologue.
Un matelas à eau, des colonnes à bulles, des lumières diverses. Cette salle a été vraiment conçue et pensée pour les personnes qui ont besoin de stimulation sensorielle.
Que l'on active les sensations, qu'on les apaise, un seul but, favoriser l'inclusion des personnes atteintes d'autisme.
Fauteuil à découvrir en photo sur bleurcfm.fr et votre application mobile ici. Une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid. Elle démarre aujourd'hui pour les personnes les plus fragiles, les plus de 80 ans et les personnes immunodéprimées qui restent les plus touchées. Toutes les informations pour savoir si vous êtes concernés sont à lire sur bleurcfm.fr. La 54e édition de la ronde de la Giralle a été remportée par Guillaume Santigne, une victoire qui a une saveur toute particulière. Après 5 participations pour le jeune pilote cap-corsin de 25 ans à bord de sa Skoda Fabia Rally 2, l'abandon inattendu des vainqueurs de la précédente édition après une sortie de route a marqué un tournant décisif dans la course. Comme l'a dit Guillaume Santigne hier après-midi à l'arrivée sur la place Saint-Nicolas, Bastia.
Ça a été un événement important du rallye. J'en suis désolé pour eux, surtout que c'est sur mes amis Hugo et Johan. Donc c'est sûr que ça a été un élément marquant de la course. On est parti nous dans la première spéciale de samedi pour essayer de l'étalonner. Donc on est parti assez fort. Lui aussi est parti couteau entre les dents. Bon, on a eu plus de chance que lui. On est resté sur la route. Donc ça fait partie de la course. Et puis on a continué à rouler. Et puis après avec l'avance qu'on avait, on a su gérer l'avance et on est là ce soir. C'est une grande fierté. On est très content avec mon copilote Jérôme qui est mon ami d'enfance et on suit ça depuis petit, ce rallye qui est un mythe du rallye Corse et on est très fiers de pouvoir inscrire notre nom au palmarès.
Et du côté des organisateurs, Lucien Marsicano souligne le rôle des nouvelles générations dans la continuité du rallye.
Ces nouvelles générations, c'est bien. On voit qu'il y a quand même des jeunes comme Fouzé, là, comme d'autres jeunes de la région bastiaise qui poussent. Un grand bravo aussi à Bianco et à Ross qui ont fait une très très belle course. Franchement, tout le monde était au rendez-vous et ont répondu sportivement présent. Ça a été une très très belle édition. Que ce soit sécurité, que ce soit organisationnel, que ce soit sportif, tout était au rendez-vous tout au long de ces 3 jours. Franchement, ça a été un très très beau parcours. On est très fiers de continuer l'histoire de ce mythe.
L'explosion de joie du trio de tête de cette 54e édition est à retrouver en vidéo sur bleurcfm.fr.
RCFM.
Maré-la-Dîne.
Dans Maré-la-Dîne, ce midi, le 11e festival Vita Marine à Sartène. Ça se passe jeudi au campus pour une sensibilisation à l'environnement marin avec des débats, des expositions et des ateliers, tous ouverts au public. Vendredi, ce sera au tour des scolaires. Justin Triguea présente cette 11e édition au micro de Jérôme Souzy.
On parle du 11e festival Vita Marina du côté de Sartène. Avec vous, Justin Tigréa, bonjour.
Bonjour.
Ça se passe le 18 avril et cette année, nouveauté dans cette ouverture à la mer, c'est aussi ouvert au public.
C'est ça, exactement. 18 et 19, où on va recevoir à peu près 200 élèves par jour, donc à peu près 400 au total. Et sur la journée du 18 avril, on l'ouvre pour la première fois également au grand public s'ils veulent également se joindre aux scolaires pour voir les animations qui sont proposées par de nombreux partenaires.
Qu'est-ce que vous attendez du côté du campus Agricourt, SIGA, de ces rencontres en général pour le public, pour les jeunes?
Alors c'est donc comme on l'a dit précédemment, c'est un festival qui a 11 ans et l'objectif c'est vraiment de la sensibilisation, la protection du monde marin. Donc on est, je vous le rappelle, même si on est un établissement qui à l'origine s'appelait le lycée agricole de Sartène, hein, et qui maintenant s'appelle le campus Agricorsica, il y a des formations qui ne sont pas exclusives au milieu agricole. Donc par exemple, on a des formations sur la gestion des milieux naturels et de la faune, et aussi sur des BTS, gestion et protection de la nature. Donc on est en plein sur les programmes scolaires qui peuvent être présentés au lycée. Mais le but, c'est avant tout de sensibiliser les citoyens, c'est-à-dire les scolaires qui seront les futurs acteurs aussi du territoire de demain et le grand public à l'heure actuelle qui est déjà un utilisateur de la mer.
En tout cas, le grand public est attendu le jeudi 18 à Sartène dans ce campus et puis le vendredi, c'est simplement les scolaires. Merci beaucoup, Justin Tigréa.
Merci à vous.